Débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, bienvenue dans le débat de ce soir. Après 15 jours de débat, de concertation, de manifestation, Manuel Valls a présenté, c'était hier, une nouvelle version du projet de réforme du Code du travail. Plusieurs points ont évolué depuis la première version, par exemple sur la question du plafonnement des indemnités prud'homales ou encore du licenciement économique, mais le texte a été diversement accueilli. Le MEDEF s'est dit déçu, du côté des syndicats c'est la division. Les réformistes se sont dit rassurés. Ils ont eu l'impression d'être entendus, tandis que par exemple FO ou la CGT continuent de demander le retrait de la réforme et maintiennent leur appel à la mobilisation. Alors, réforme du Code du travail, deuxième version, Manuel Valls a-t-il trouvé le bon compromis? Le texte permettra-t-il de lutter contre le chômage? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés en studio. Fabrice Angéi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT. Par téléphone avec nous en direct, Gilles Berset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille et puis vous êtes le co-auteur avec Jacques Barthélémy d'un rapport de Terra Nova qui s'intitule « Réformer le droit du travail » et qui a été édité chez Odile Jacob. Alors avant d'aller dans le détail des mesures qu'ambitionne de prendre le gouvernement, Fabrice Angéi, comment vous avez réagi hier à l'annonce de cette nouvelle mouture du texte? Est-ce que vous avez eu l'impression que la CGT avait été entendue dans ses critiques?
La CGT n'a pas formulé que des critiques, elle a formulé aussi des propositions. C'est retrait, mais propositions de notre code du travail du XXIe siècle, je tenais à le dire. Maintenant, sur la journée d'hier, sur la restitution, ce n'était pas une négociation. C'est, je pourrais prendre trois mots pour qualifier. Rétropédalage, sur certaines mesures, on y reviendra. Surtout opération de communication, des fois dissonante, ce que j'ai vu sur les médias le soir. Et puis, un projet dont la philosophie ne change pas, qui est travailler plus, être payé moins, pour être viré plus facilement.
Donc vous n'avez eu aucune satisfaction en écoutant les nouvelles propositions?
Aucune, la philosophie demeure.
Gilles Berset, l'ambition de cette réforme, c'est un peu de renforcer la négociation collective, de flexibiliser, tant dans sa première que dans sa deuxième mouture. Est-ce que cela va, selon vous, dans le bon sens?
Alors cette réforme va dans le bon sens, pour moi cela va de soi. Elle aurait pu aller davantage dans le bon sens et éviter d'agiter des chiffons rouges. On a vu l'effet qu'avait cette agitation de chiffons rouges auprès de la société, que ce soit d'ailleurs les corps intermédiaires, tous les syndicats, que ce soit auprès de très nombreux intervenants qui ont réagi à ce projet. On aurait pu se contenter, par exemple, de faire quelque chose de très 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 ambitieux, à savoir ce qui est préconisé dans des rapports comme non seulement celui que j'ai rédigé avec Jacques Barthélémy, mais également celui qui a été publié par Jean-Denis Combrexel à la demande du Premier ministre lui-même. Et ces rapports disaient la direction prioritaire de la réforme, c'est de donner davantage de responsabilités aux partenaires sociaux et d'ouvrir leur possibilité de décider de nouvelles normes qui permettraient de déroger à celles du Code du travail dans des limites qui sont celles des grands principes et bien sûr du droit supranational. Vous voyez, on est allé dans d'autres directions avec les réactions qu'on a observées depuis une quinzaine de jours, hélas.
Alors, je voudrais qu'on prenne mesure par mesure. On voit bien que vous êtes déjà sur la philosophie du texte, pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y avait un point qui cristallisait beaucoup de critiques, c'était le plafonnement des indemnités prud'homales, qui était censé favoriser, d'après le gouvernement, l'embauche en contrat à durée indéterminée. Finalement, le barème de ces indemnités ne sera pas obligatoire, mais seulement indicatif. Fabrice Angéi, est-ce que c'est pas une vraie concession de la part du gouvernement que d'avoir cédé sur le caractère
Mais vous l'avez dit en premier, c'est vraiment un problème de philosophie et pas de mesure en tant que telle. Donc un barème indicatif, il faudrait m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un barème indicatif. Ou c'est un barème qui s'applique, ou il n'y a pas nécessité d'un barème. On laisse faire la justice. Un barème indicatif, ça veut dire quoi? On a déjà des barèmes indicatifs lors des conciliations au prud'homme. Donc voilà, là c'est quelque chose, on voit bien quand j'ai l'opération de com, c'est faire semblant du lâcher de l'est, sans toucher le fond de la réforme. Et le fond de la réforme, c'est que la négociation d'entreprise aujourd'hui, c'est une négociation qui se fait sous le chantage de l'emploi. Ça c'est la vraie vie des salariés. Allez demander aux salariés de Smart, aux responsables syndicaux, quel que soit leur syndicat d'affiliation, ce qu'ils pensent de travailler 39 heures, payer 37 heures, pour au final, dans quelques temps, délocaliser l'entreprise malgré
donc,
tout.
Donc, se poser la question du montant des indemnités prud'homales, c'était de toute façon une mauvaise idée pour tenter de lutter contre le chômage, c'est ce que vous
c'était
nous dites.
C'était l'évitement du juge. Lutter contre le chômage, c'est des politiques de création d'emplois, c'est des politiques économiques, c'est des politiques d'augmentation de salaire, de réduction de travail, c'est pas la casse du code du travail qui va créer de l'emploi.
Alors, je crois que là-dessus, vous avez une vraie divergence avec Gilbert Sept. Pour vous, la réforme du Code du travail est un vrai sujet pour lutter contre le chômage.
Alors, commençons par les indemnités prud'homales, comme vous le dites, c'est-à-dire le dédommagement dans le cas d'un licenciement abusif. Vous voyez, dédommagement du salarié, du préjudice subi par le salarié dans le cas d'un licenciement abusif, parce que c'est de ça dont on parle. Ce type de choses, ce plafonnement, existe dans de très nombreux pays. Dans de très nombreux pays autour de nous, dont des pays nordiques, dont des pays scandinaves, qu'on ne peut pas taxer d'inégalitaires. Ce sont des pays beaucoup plus égalitaires que nous, beaucoup plus progressistes que nous, et dans lesquels les partenaires sociaux ont beaucoup plus d'espace que nous pour décider. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que la façon dont s'y est pris le gouvernement est évidemment inacceptable. C'est quelque chose, c'est un élément de l'avant-projet de loi qui a été découvert par les partenaires sociaux au moment où il a été publié par la presse, par vos confrères, ce qui est quelque chose évidemment d'inqualifiable. Il fallait en discuter auparavant, il fallait se concerter avec eux, il fallait voir comment on pouvait évoluer éventuellement dans cette direction.
Et alors justement, sur l'évolution de ce texte tel qu'il a été présenté hier, est-ce qu'il vous semble plus acceptable et possiblement efficace que la première version ?
Évidemment. Cet élément, par exemple, du texte était inaccepté par l'ensemble des partenaires sociaux, syndicats de salariés. Donc il fallait évidemment le retirer. Ce qui est dommage, c'est que le débat sur cette question-là, qui est une question qui est digne d'un véritable débat, le débat sur cette question-là est sans doute complètement pourri maintenant pour une très longue période suite à la façon dont le gouvernement a voulu introduire cette problématique dans un avant-projet de loi, de cette façon-là. Vous voyez, c'est dommage parce que c'est une question sérieuse qui aurait pu être traitée sérieusement, avec des discussions, avec beaucoup de concertations.
Et alors justement, je crois que Terra Nova s'intéressait à cette question-là et proposait, pourquoi pas, la mise en place d'un plafond, mais aussi d'un plancher. Ça aurait pu être efficace, par exemple, Gilbert Sept ?
Oui, absolument. Un plancher aurait pu être efficace, encore qu'un plancher existe déjà dans les faits, dans les textes et dans la loi. Donc c'est quelque chose qu'il était utile de rappeler. Qui existe dans très nombreux pays, c'est plutôt cette notion de plafond.
Nous avons perdu Gilbert Sept. Vous vouliez réagir,
Fabrice
Sandi ?
Concernant la réparation du préjudice subi, c'est bien ça, la question de justice. C'est pas une question d'efficacité, c'est une question juridique de réparation du préjudice subi. Et donc là-dessus, on ne peut pas être sur une barémisation. C'est la libre appréciation du juge par rapport à un préjudice. C'est pas savoir
l'effet incitatif pour vous n'existe pas.
Mais c'est pas savoir à l'avance pour une entreprise que va coûter le licenciement d'un salarié, et forcément, là, les jeunes avaient raison, ça pénaliserait les jeunes salariés, puisque c'est un barème en fonction de l'ancienneté du salarié. Et donc, c'est là que je ne comprends pas la question d'efficacité, d'indemnité. On est sur un domaine, donc là, de réparation juridique d'un préjudice subi, et je le dis bien, pour un licenciement abusif, et pas économique, un licenciement abusif.
Alors, continuons justement sur cette notion de licenciement, mais passons sur le licenciement économique. C'était un autre point litigieux de la première version de la réforme qui avait été proposée, enfin qui avait été expliquée, puisqu'elle n'avait pas encore passé en Conseil des ministres. Alors, le texte, dans sa première version, redéfinissait les critères du licenciement économique, 4 trimestres consécutifs de baisse du chiffre d'affaires. Les difficultés économiques seront jaugées, calculées seulement au niveau national. C'est là le changement, pas de prise en compte des éventuelles branches à l'étranger pour éviter les abus. La nouvelle mouture du texte prévoit un rôle accru du juge. Fabrice Angeli, je vous vois lever les yeux au ciel.
Oui, sourire, parce qu'on garde les mesures qui sont bien la question de la baisse d'activité, de la perte d'un marché qui ne mette pas forcément en péril la santé économique d'une entreprise. On reste sur un périmètre, donc sur un groupe à dimension internationale, hein, sur un périmètre national, le territoire français, sur lequel on pourra faire des opérations d'optimisation fiscale sur les grands groupes. Et donc le contrôle du juge, il n'est pas réel. Il va être fait par rapport aux critères marqués dans le projet de loi, entre parenthèses, projet de loi qui a été transmis au Conseil d'État, dont on nous avait promis, le gouvernement et le Premier ministre, qu'on l'aurait en même temps et qu'on attend toujours. Et à cette heure-ci, on n'a toujours pas reçu à la CGT, peut-être que d'autres l'ont reçu, on n'a toujours pas reçu à la CGT le projet de loi, ou peut-être ce qui est écrit n'est pas ce qui a été dit hier. Voilà, encore un exemple de quelle concertation on a eu, quelle négociation, aucune. Et donc là, on est sur de l'affichage, opération de com, on demeure la question du licenciement, donc du licenciement économique, ça reste comme c'est écrit, et on dit... Dans l'incantation, le juge aura pleine liberté, mais comme il a aujourd'hui, on peut le saisir. Mais
donc
il aura des critères qui le fixent.
Le recours au juge n'est pas une garantie.
De com, mais Macron a dit que de toute façon, il souhaitait revenir au texte initial, si je ne me trompe pas, il y a quelques heures.
Alors Gilles Berset, sur cette redéfinition du licenciement économique, le gouvernement dit l'idée, c'est de rendre le territoire français attractif pour les investisseurs étrangers. Alors comment vous réagissez par rapport à la proposition de cette mesure-là? Ah, nous avons perdu Gilles Berset qui n'est toujours pas là. Donc je vous rappelle que vous êtes sur RFI et que nous parlons donc de la deuxième mouture du projet de réforme du Code du travail qui a été présenté hier par Manuel Valls. Beaucoup de modifications par rapport à la première mouture. Alors l'une des modifications, et c'était une surprise, Fabrice Angéhi, je rappelle que vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT et que vous êtes en studio avec nous, c'est la généralisation de la garantie jeune qui deviendra, alors je lis ce qu'on nous a présenté, un droit personnel et universel pour tous les jeunes qui sont sans emploi ni formation. Ce dispositif expérimental offre pour une durée d'un an un accompagnement renforcé, des périodes en entreprise et une allocation mensuelle d'environ 450 euros. Est-ce que ça, c'est pas une vraie mesure de gauche, Fabrice Angéhi?
La vraie mesure, c'est de permettre aux jeunes, d'une part, donc, de renforcer l'éducation pour donc amener toute une génération de jeunesse à des qualifications, à des diplômes et créer des emplois. Ça serait une vraie mesure de gauche. Maintenant, sur la garantie universelle, moi, j'ai pas entendu la même chose, hein. Oui, on a un Premier ministre qui a dit garantie universelle. On a Myriam El Khomri qui a parlé d'élargissement.
Ministre
du Travail, qui a parlé d'élargissement. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et cette mesure, je rappelle, c'est une promesse du candidat Hollande en 2012, mais qui existe déjà, qui était déconnectée de la loi du travail et qui était déjà dans un processus d'élargissement département par département. Donc après, nous, on est
donc
favorable.
Donc en fait, c'est pas nouveau.
Non, c'était déjà prévu et on est favorable à cette, donc à l'universalisation. On est favorable à ce que les jeunes qui ont décroché puissent avoir une seconde chance et avoir des formations, pouvoir avoir des diplômes et s'insérer professionnellement. On y est tous favorables. Là, il n'y a pas de divergence. Mais quand je dis effet de com, c'est déjà une mesure qui est mise en place. Une mesure sur 900 000, on s'accorde tous à dire 900 000, hein, jeunes concernés, c'est 5 milliards 5. La ministre parle de 500 millions, il cherchait l'erreur. Donc on
donc
est vraiment sur un affichage.
Elle n'est pas financée.
Voilà. Flexibilité dès aujourd'hui, sécurisation 2017, cet élargissement, ça veut dire que le gouvernement ne sera plus là.
Donc bonne mesure, mais pas financée, de toute façon, qui ne suffit pas à vous faire voter pour...
Effet de com, une mesure que le gouvernement n'appliquera pas n'étant plus là.
Alors Gilles Berset, sur cette garantie jeune qui est élargie, est-ce que là on n'est pas sur un vrai engagement de gauche et est-ce que ça c'est pas une mesure qui est favorable à la lutte contre le chômage efficace?
Oui, absolument. Ça c'est une mesure qui est très très positive. Et je crois que le caractère positif de cette mesure fait l'unanimité. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucune difficulté. Je voulais revenir sur un point sur lequel je n'ai pas pu intervenir, c'est sur le périmètre, sur lequel les difficultés économiques d'une entreprise sont appréciées. Vous voyez, ce problème concerne peu d'entreprises, très très peu d'entreprises, c'est des entreprises internationales. Et si l'on veut que des entreprises internationales investissent en France, il faut éviter de leur faire peur. C'est-à-dire que si leur investissement en France connaît quelques difficultés, il faut qu'elles aient la garantie avant de pouvoir éventuellement se désengager. Sinon, elles ne vont pas investir en France.
Alors, vous pensez à quelle mesure concrète ?
Essentiellement important. C'est la mesure de l'appréciation du périmètre économique pour des entreprises connaissant des difficultés pour qualifier des licenciements économiques. Vous voyez, la qualification du licenciement économique, selon le périmètre de l'entreprise, est-ce qu'on doit considérer les difficultés économiques sur le seul sol national français, ou est-ce que cette appréciation doit se faire sur un périmètre plus large, qui est celui du groupe ou de l'entreprise, quand l'entreprise est internationale.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que l'attractivité du territoire français pour les investisseurs étrangers est une vraie question et que cette réforme peut y répondre dans cet aspect-là ?
Absolument, absolument. Et c'est un point essentiel de cette réforme et il est bon que cette disposition ait été, pour l'instant, j'espère que ça restera le cas, pour l'instant conservée. Si l'on souhaite que des groupes, que des entreprises étrangères investissent en France, il ne faut pas leur faire peur.
Oui, car effectivement, vous dites, j'espère que ça restera le cas, car il faut le dire aux auditeurs, le texte n'a pas encore été présenté en Conseil des ministres, donc il n'est peut-être pas définitif.
On a un contre-exemple.
Fabrice Angéli.
On a un contre-exemple. Toyota. Toyota a des usines en France. Elle recherche quoi ? La qualité des services publics, c'est-à-dire nos systèmes de santé, de formation, des ouvriers qualifiés. On a la meilleure productivité en France au niveau des salariés. Elle est là, la vraie vie. Donc on voit bien que ça ne tient pas la route. Là, on parle de multinationales qui, effectivement, dictent les ordres aux PME, TPE à travers le tissu de sous-traitance. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en France, mais qui sont sous-traitantes de grands groupes. Ils sont peu, mais ils sont très puissants, qui recherchent quoi ? La rentabilité des placements, puisqu'aujourd'hui, c'est des fonds de financement, des fonds de pension qui ont les grandes entreprises multinationales qui investissent dedans. Donc, on recherche des rentabilités à deux chiffres dans l'industrie aujourd'hui, ce qui n'est pas tenable, ce qui n'est pas possible. Et donc, ce sont des entreprises qui font, donc, de manière globalisée, des milliards de bénéfices, donc de dividendes versés aux actionnaires, et qui, effectivement, fermeraient des sites en France. On pourrait citer plein, comme Florange, etc., qui ferment des sites en France, qui sont de véritables établissements boursiers pour aller s'implanter en Roumanie, en Bulgarie, au Bangladesh ou ailleurs, voilà, ou en Inde ou ailleurs. C'est ça la réalité. On n'est pas sur des difficultés économiques d'un groupe. Voilà, il faut arrêter de faire du sophisme et parler de la réalité, la vraie vie que vivent les salariés.
Alors Fabrice Angéli, je voulais vous demander... Allez-y Gilbert, je vous en prie.
La grande différence entre monsieur et moi, c'est que moi je souhaiterais qu'il y ait davantage d'entreprises qui viennent investir en France. Et pour ça, je souhaiterais qu'il y ait des entreprises étrangères qui ne soient pas effrayées par les conséquences pour elles d'un manque de rentabilité de leurs investissements en France, si elles devaient vouloir se désengager de la France. Vous voyez, pour qu'elles investissent en France, pour que des entreprises étrangères investissent en France, il faut qu'elles se disent que la prise de risque est contrôlée.
Et Gilbert Sept, si cette réforme reste effectivement dans la dernière version du texte, sur le licenciement économique, est-ce que vous avez une idée du nombre d'emplois que cela pourrait créer ? Est-ce qu'on est à la marge ou est-ce que pour vous, ce serait vraiment important ?
Non, ça fait partie d'une quantité énorme de réformes que ce sera par cette loi, mais ça pourrait être, et j'espère que ça le sera par d'autres véhicules législatifs, qui, pierre après pierre, construiront l'édifice d'un meilleur marché.
Donc c'est une mesure parmi d'autres. Je suis désolée Gilbert Sept, on vous entend vraiment très mal, mais je crois qu'on a bien compris votre point de vue. Une mesure nécessaire, mais certainement pas suffisante pour lutter contre le chômage. Fabrice Angéli, la CGT demande toujours le retrait du texte. Vous allez manifester jusqu'au retrait. Vous êtes à quel point êtes-vous déterminé ?
On va manifester pour le retrait. Mais c'est pas le statu quo, c'est le retrait pour discuter de propositions. Je l'ai dit, on a fait un code du travail du 21e siècle qui porte la question de la réduction du temps de travail. Je sais pas si Terranova, il me semble, dans un passé lointain, l'avait porté, cette réduction du temps de travail qui peut être créatrice et qui est créatrice d'emplois selon la façon dont on l'encadre, qui porte effectivement une extension au-delà de ce que du compte personnel d'activité qui est mis en place aujourd'hui. Nous, on porte le nouveau statut travail salarié et la sécurité sociale professionnelle. Ça veut dire donc un socle de droit qui est garanti, évolutif, sur lequel on ne peut pas revenir en arrière, opposable et transférable aux employeurs.
Réponse par oui ou par non, est-ce qu'on se dirige vers un nouveau CPE pour vous dans la mobilisation, dans l'ampleur ?
C'est pour les jeunes, ces mesures, un CPE, dans l'ampleur, je pense que ça, oui, on risque d'avoir des ampleurs très fortes. On appelle à une grève intergénérationnelle et interprofessionnelle le 31 mars et on sera dans les mouvements le 17 et le 24.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Fabrice Angéli, membre du bureau confédéral de la CGT. Merci à Gilbert Sept, professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille. On se retrouve demain pour l'inauguration du Salon du Livre. Merci également à Florence Ponce et à Valentin Vanneur.
Le théâtre, c'est raconter la vie.